Pour notre méditation de ce dimanche, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel. Je colle les pages. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. C'est courant, donc la disposition du livre est différente. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si cette Bible, c'est français courant. Oui, mais c'est normal. Après Ézéchiel, il n'y a pas ici. C'est ça qui est bizarre. Après Ézéchiel, j'ai tout de suite osé. Donc, je ne sais pas qui m'a enlevé Daniel. Il n'y en a pas. Tout de suite, c'est osé. Quelqu'un m'a enlevé Daniel. Désolé. C'est pas possible. Allez, Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Chers amis, ce genre de texte, les millénaristes, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il y aura 1000 ans sur terre, ils vont régner avec le Christ, il y a ce genre de courant de pensée apocalyptique. Les millénaristes ainsi que nos amis adventistes en raffolent pour en faire une projection d'une probabilité du temps de la fin. Il fut un temps où il y avait beaucoup de spéculations autour d'une possibilité d'une date de retour pour le Christ. On avait fait des calculs, ça a été à la mode. Le Christ qui reviendra juger les vivants et les morts à telle date. Tout le monde avait sa petite théorie là-dessus. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les seuls à se poser cette question. Les autres religions et les autres croyances avaient aussi fait des études sur une possibilité de la fin des temps. Vous rappelez-vous le calendrier Maya? Tout le monde en avait parlé en 2012, je ne me trompe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une croyance ou une religion pour savoir si le monde va être détruit ou pas. Les scientifiques, on est en plein COP26, les scientifiques qui font des prévisions face aux catastrophes climatiques ont aussi une idée là-dessus. De nos jours, il y a même une nouvelle discipline académique en milieu universitaire, et c'est sérieux, c'est pas du blablabla, mais c'est de vraies études, qui parlent même de collapsologie. C'est-à-dire, C'est un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. Voilà la définition donnée par les dictionnaires sur ce collapsologie. Les personnes qui sont dans ce mouvement font des analyses à partir de ce qui se passe dans la société, dans le monde, et de là, ils prédisent l'effondrement de notre civilisation actuelle. Il y a un grand livre très célèbre aujourd'hui qui parle de la décadence du monde occidental. Bref, pour une fois, tout le monde est à l'unanimité, quels que soient les différents courants, quels que soient les pensées, tout le monde accepte qu'il y aura une fin. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les philosophes, que ce soit les théologiens, que ce soit les autres religions même, il y aura une fin. Après, chacun interprète à sa manière, selon leurs croyances, leur intelligence, ce qui en sera par la suite. C'est pour ça que j'avais choisi le thème. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On est tous d'accord qu'il y aura une fin, mais là, après la fin, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a une multitude d'hypothèses de chacun. Mais ce qui nous intéresse pour notre part à travers ce texte, ce n'est pas de savoir quand est-ce que cela va arriver et qu'est-ce qui se passera. Ce n'est pas ça que la Bible s'intéresse. Je laisse cette partie-là à ceux qui sont plus intelligents que moi, les plus illuminés. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que Daniel dit explicitement dans ce passage. Pour lui, au milieu du temps de la détresse qui s'abattra dans le monde et qui s'abat déjà aujourd'hui, on est en plein dedans, on est dans le temps de la détresse, comment les femmes et les hommes de Dieu vont-ils se comporter? C'est là le vrai problème. Comment nous allons vivre dans ce temps de détresse? Quelle attitude allons-nous prendre face à cela? Daniel ne nous appelle pas à fuir ce temps de la détresse, ni à l'éviter comme chez les catastrophistes, ils vivent dans les bunkers, ils mettent des rations de vie pendant 6 mois si jamais il y a une bombe nucléaire qui va tomber sur leur tête, ou on va aller habiter dans les montagnes si jamais il y a un tsunami à cause du dégât climatique. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, chrétiens? De plus, il est très réaliste, Daniel. Même si c'est un prophète, il est réaliste, il a les pieds sur terre. Il dit, on ne peut pas éviter ce temps-là. Oui, les climatologues, les spécialistes essayent de trouver un accord, mais je suis désolé, c'est écrit, ils ne vont pas s'entendre. Ils pensent qu'à leur intérêt, leur voiture, leur industrie, leur profit, surconsommation, et ce n'est qu'une perte de temps. Ces réunions, même si c'est nécessaire. Nous vivons au cœur de la société et dans le monde. Donc nous vivons aussi tout ce que les autres vivent, nous les chrétiens. Alors voici ce que Daniel nous dit au verset 3. À titre personnel, c'est l'un des versets que j'aime le plus dans la Bible. « Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. » C'est-à-dire au milieu de ce ténèbre. Ils brilleront comme brille la voûte céleste, et ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours à jamais. En d'autres termes, quelqu'un qui arrive à discerner les choses dans les temps difficiles, cette personne-là serait comparée à une étoile qui brille dans la nuit. L'image, elle est belle. La différence d'une étoile ne se voit que dans la nuit, n'est-ce pas? Et en pleine nuit, plus il fait noir, plus les étoiles brillent. C'est-à-dire, plus il y aura le temps des détresses, plus les hommes et ceux qui ont mis leur confiance en Dieu brilleront dans ce ténèbre. Ce verset 3 me fait rappeler le texte dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2 qui dit Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est écrit, chers amis. Les ténèbres vont engloutir le monde. Et ces textes sous-entendent que les chrétiens ne sont pas appelés à fuir le temps de la tribulation. Notre Jésus n'est pas un Dieu qui nous a promis un monde de bisounours. Quand vous serez avec moi, vous n'aurez plus de soucis, vous échapperez aux problèmes de la vie. Il ne nous a pas promis cela. Oui, il est vrai que Dieu peut nous libérer de nos soucis de la vie, c'est pour cela que nous prions. Oui, il est vrai qu'il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre pour nous épargner tous les tracas de la vie. Mais s'il n'est que cela, alors il serait réduit au même niveau que les autres dieux. Vous savez pourquoi les autres croyants s'y prient leur dieu? Ils veulent juste un dieu pompier, un dieu d'urgence, le SAMU. Juste, j'ai un souci, appelez le 112. Une fois qu'ils ont fini, retournez dans vos casernes. C'est ça les dieux des païens. Mais notre Dieu, il n'est pas que cela, il n'est pas que cela. Il serait réduit à ce niveau-là. Mais ce qui différencie notre Dieu par rapport aux autres dieux, il se révèle à travers ce que Daniel nous dit ici, il nous donnera la capacité de discerner dans les temps de la détresse. Avez-vous prié déjà cela? Quand vous êtes face à une difficulté, quel est le premier réflexe que nous faisons? Seigneur, libère-moi de là! Le plus vite possible. Mais qui a prié, Seigneur, donne-moi le discernement pendant que je traverse ce moment. Et souvent, quand on n'a pas le discernement, on fait n'importe quoi, on fait des bêtises. Dès qu'on a un souci, on réagit par réaction épidermique et on tombe toujours dans le piège du mal. Il nous donne la capacité de discerner dans les temps de la détresse. Le monde, quand il est désemparé, au plus profond de ses malheurs, pour lui, tout est noir autour de lui et ne sait plus où aller. Soit il tombe dans un état suicidaire, il dit, je vais finir ma vie, ça facilitera les choses. Soit il tombe dans les tourmentes qui n'en finit pas. Je ne dis pas que nous ne sommes pas tristes, que les chrétiens ne seront pas tristes, si. Paul l'a bien dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Nous sommes accablés de tous côtés, donc nous sommes aussi accablés. Mais notre différence par rapport au monde, nous ne sommes pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, dans la boue, comme tout le monde, mais non anéantis. C'est ça qui nous fait la différence. Il y a toujours quelqu'un qui va nous relever, le Christ. Oui, on tombe. Oui, nous connaîtrons des chutes. Oui, nous connaîtrons des échecs. Oui, nous serons à la marge de la société. Mais oui, aussi, quelqu'un va nous relever. Dieu ne te dit pas, relève-toi, c'est lui qui va te relever. Et en lisant bien cette parole de Paul, et ce que le prophète Daniel nous dise, je pourrais même vous dire ceci, face aux catastrophes ou aux détresses, quel que soit son genre, il y a toujours ceci, et après, que se passera-t-il? Accablé, mais pas sans issue. Perplexe, mais pas désespéré. Persécuté, mais pas abandonné. Jeté, mais pas anéanti. En revanche, ceux qui sont engloutis par la nuit qui les enveloppe, ils se disent « c'est la fin ». Mais pour nous, il y a quelque chose après. C'est ça qui nous rend dans l'espérance. Oui, après tout ce que nous vivons, il y aura quelque chose. Les Daniel, rappelez-vous, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la tourmente.
Ils étaient pressés de partout.
Mais au milieu de tout cela,
ils avaient encore cette lucidité incroyable qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'eux. Ce n'est pas une performance psychologique, ce n'est pas une performance personnelle. C'est quelque chose qui est transcendante, qui vient d'en haut, qui les habite. Vous imaginez, ils étaient face à la fournaise. Normalement, on perd tous ses moyens quand on est condamné à mort. On fait n'importe quoi. Mais comment se fait-il qu'ils avaient encore cette lucidité incroyable, ces trois amis? Quand on les a menacés, si vous ne vous agenouillez pas devant l'empereur, devant son statut, on vous jettera dans la fournaise. Et écoutons ce que eux, ils ont répondu au roi. Si notre Dieu que nous servons est capable de nous sauver, il nous sauvera de la fournaise où brûle un feu intense et de ton pouvoir, roi. Ça, c'est normal. Mais écoutons la suite. Sinon, sache bien, ô roi, que nous refuserons quand même de servir tes dieux et t'adorer la statue d'or que tu as dressée, sinon, si Dieu ne nous sauve pas. On a toujours entendu, oui, j'ai la foi que Dieu me sortira de ce problème. Mais peu diront, mais si jamais je m'en sors pas, je serai toujours fidèle à Dieu. Voilà quelqu'un qui a la lucidité. Je ne m'agenouillerai jamais devant Baal. Je ne m'agenouillerai jamais devant le diable. Je resterai fidèle à Dieu jusqu'au bout. Que le Seigneur vous donne une telle lucidité au milieu de la fournaise de vos vies. Que le Seigneur vous donne la force de vivre ce que vous vivez actuellement, même si je sais que c'est dur, même si je sais que vous n'avez pas d'issue. Rappelez-vous toujours ceci. Et après, que se passera-t-il ? Amen.